Le grand témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Avec moi dans ce studio, Hubert Tetika Imkalaba. Il est homme politique congolais. C'est lui que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Monsieur Tetika, bonjour et bienvenue dans le studio de Radio Okapi.
Bonjour et merci.
Alors avec vous, dans notre entretien de tout à l'heure, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes homme politique congolais. Vous nous parlerez de votre parcours, de vos motivations, de ce qui vous a attiré en politique. C'est tout à l'heure dans l'émission. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né en 1962.
Oui, exact.
Où ?
À Kinshasa.
Et c'est à Kinshasa où vous avez grandi ? Vous avez passé votre enfance ?
Oui, oui, c'est à Kinshasa en grande partie, hein, de toute façon. Mais bon, moi j'ai eu un papa qui s'est beaucoup promené dans le pays et qui m'a...
Vous avez sillonné presque toutes les provinces ?
Pas toutes, mais une bonne partie. Donc, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'amis, parce que vous savez...
Était dans la territoriale ?
Il était syndicaliste, mais à l'époque, vous savez, à l'UNTC ou l'UNTESA après, l'Union Nationale des Travailleurs du Zaïre, on faisait bouger un peu beaucoup ces gens-là. Alors, ce qui m'a permis de faire l'école primaire à Kinshasa, au collège Boboto, d'aller faire le cycle d'orientation au collège Alphagérie à Bukavu, de revenir dans le Bandundu, plus précisément Kasongulunda, d'où je suis originaire, faire la troisième année là-bas, et puis repartir encore dans le Kivu, mais cette fois-ci à Butembo, et puis revenir enfin, avoir un peu terminé.
À Kinshasa, vous avez obtenu votre diplôme à Kinshasa?
Non, à Bandundu, à Imbela. Donc voilà, et puis après, bon, l'université, c'est seulement l'université que j'ai fait à l'étranger, j'ai fait en France. Voilà.
Ça ne devrait pas être facile pour vous, hein, tous ces mouvements, ces vagues.
Oui, c'était pas facile, mais c'était quand même une bonne expérience, parce qu'évidemment, j'en vois les dividendes aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai une panoplie de connaissances. Hein. Vous savez, ce sont des amitiés qui restent, hein, des amitiés qu'on a comme ça à l'école, au bord de l'école, sur le bord de l'école, ça reste. Donc ça m'a vraiment permis, et je suis très reconnaissant à mon père, et j'étais très ravi finalement après de dire enfin s'il fallait peut-être faire ça, et ça m'a permis aujourd'hui, moi je parle Swahili comme mieux que d'ailleurs que ma langue maternelle qui est l'Ikiyaka dans le monde, vous voyez. Donc
vous avez fait quelles études aux humanités?
Aux humanités, j'ai fait la biochimie, enfin j'ai fait la biochimie, donc disons le scientifique, et puis après à l'université je clairement changeais, j'ai dévié, comme on peut dire finalement.
C'est dû à quoi ce changement?
Non, je pense que c'est dû à certaines convictions que j'ai. Vous savez, j'ai toujours pensé travailler pour les autres, travailler pour la société. Et finalement, vous savez, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme d'état en 81. Et puis deux ou trois ans après, je suis parti. Mon père m'a envoyé en Europe. Mais là-bas, j'étais très...
En France, précisément.
En France, précisément, oui. J'étais très impressionné de voir un peu comment la politique se faisait là-bas. Comment on tenait compte de la population. Comment c'était un souci permanent pour les hommes politiques que de vouloir assurer le mieux-être. Hein, et puis, pour le collectif, quoi. Alors, je me suis dit, non, c'est une bonne expérience. Je pense que c'est mieux d'aller faire ça chez nous. Vous allez remarquer que j'ai commencé par d'abord faire les relations internationales, où j'ai eu une licence. Après, je me suis jeté dans les sciences politiques pour avoir une maîtrise et puis venir travailler au pays. Voilà.
Et donc, c'est la politique française qui vous a attiré, qui vous a motivé à vous lancer un peu en politique.
Oui, oui, c'est ça, je dois l'avouer. Je dois l'avouer, quand j'ai vu comment ça se passe là-bas, je me suis dit, non, pourquoi pas. Et pourquoi pas amener la même expérience chez nous. Et puis, Dieu merci que, bon, au même moment, on a commencé à vivre des choses incroyables au Congo, au Zaïre à l'époque, avec tout ce qu'il y avait, des conclaves, des ceci, des cela. Je me dis, bon, voilà, c'est peut-être que c'est le moment de me lancer pour aller apporter moi aussi ma pierre dans l'édifice. Quoi.
Et donc, vous avez une licence en relations internationales à l'école des hautes études internationales à Saint-Germain-de-Près, oui. À Paris en France, et une maîtrise en sciences politiques à l'université de Paris 8, France, oui. En France. toujours. Après vos études, vous ne revenez pas directement au pays, vous travaillez d'abord en France.
Si, si, je travaille en France, évidemment, à part quelques... avec beaucoup d'amis, hein, qui sont aujourd'hui aussi dans le milieu politique. Je pense à des amis comme Toussaint Chilombo, et Thomas Louaka, Didier Moumengui, c'est des gens, tous c'est Yvon Mombong, tout ça, ce sont les gens avec qui on a été ensemble à Paris dans le combat, des étudiants, comme étudiants et tout. Et après,
la diaspora, quoi.
La diaspora. quand on termine, évidemment, c'était pas facile de rentrer au pays, hein, rentrer au pays directement. Il fallait quand même avoir un canal par lequel passer pour, et en attendant, il fallait meubler son temps en faisant des...
C'était pas facile comment?
Non.
Par rapport à quoi?
Non, par rapport, c'est-à-dire pour intégrer les milieux politiques, évidemment, il y avait...
D'accord.
Quand vous voyez ces années-là, il y a eu, entre les temps que j'ai terminé et les temps que je suis rentré, c'est l'histoire des conférences nationales, et ceci, c'était vraiment une période un peu trouble, disons, de l'histoire politique au Congo. Alors, il fallait vraiment bien réfléchir pour venir se positionner, savoir ne pas se jeter n'importe où. Et pendant ces temps, donc, on était là, en Europe, en cherchant à travailler. Évidemment, comme dans le domaine qui est le mien, on ne pouvait pas me donner un poste qu'il fallait, un travail.
Il fallait avoir un parrain.
Donc, il fallait un parrain. Et tout d'un coup, bon, et voilà qu'en 1996 arrive la révolution. La révolution avec Mouzé, et voilà. Et c'est comme ça qu'elles sont rentrées. Je suis de la diaspora, je suis de cette diaspora qui est venue avec Mouzé Kabila. Et c'est comme ça que dès que je suis arrivé, j'ai été nommé conseiller au ministère de la Culture et des Arts avec Madame Juliana Lumumba.
Voilà, on va y revenir, Hubert Tessica. Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant que vous grandissiez?
Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est souvent que me répétait mon père. Il disait toujours, autant manquer de l'argent, autant manquer tout, mais garder sa dignité, et puis servir les autres. Il répétait ça à tout moment. Donc, et j'ai toujours cherché à marcher comme ça, voilà. Essayer d'aider les autres, de travailler pour les autres, et puis essayer de garder, dans la mesure du possible, sa dignité.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
J'aime pas le colportage, j'aime pas le menteur, non, j'aime pas trop.
Alors. C'est quoi votre plat préféré?
Ah, je suis yaka de ventre douce. S'il faut m'avoir, d'abord il faut commencer par le foumboa, voilà. Non, c'est par là qu'il faut commencer.
Accompagné de quoi? D'une bonne chikwang, d'un foufou?
Non, d'un bon foufou au départ, mais après j'étais un peu transformé avec toutes ces années passées en Europe. C'est la semoule qui a remplacé un peu le foufou. Donc voilà, donc s'il y a de la semoule avec le foumboa, dans lequel on a glissé un peu de poisson. Poisson sec, hein, comment dire. Donc voilà, donc c'est bon.
Vous êtes marié, père de 5 enfants.
Exactement.
Sportif?
Ah oui, très sportif.
Quel sport vous pratiquez?
Ah oui, j'ai été un bon footballeur pendant toute ma jeunesse. Ce qui fait que donc.
Vous avez joué dans une équipe?
J'étais dans toutes les sélections des écoles où j'étais. Parfois capitaine d'ailleurs, parce que j'avais aussi une capacité à pouvoir gérer les hommes. J'étais souvent. Mais après, quand je suis parti en Europe, j'ai voulu un peu faire du sport. Et j'étais dans une équipe Alpignano, c'est dans le nord de l'Italie, à Turin. C'est une banlieue turinoise où je suis resté pendant presque une année dans cette équipe-là, mais une équipe de 3e division. J'essayais, mais après j'avais toujours envie je me disais, bon, vous savez, l'Europe a deux faces, hein, c'est-à-dire vous pouvez tomber comme ça facilement dans un métier où vous gagnez de l'argent et puis vous ne continuez plus. Après je me disais toujours, non, Hubert, il ne faut pas oublier que tu es venu là pour les études, après j'étais obligé de quitter tout ça, je suis parti en France. Ça c'était en Italie, parce que j'avais commencé en Italie. Et puis je suis parti en France pour étudier, voilà.
Mais actuellement, qu'est-ce que vous faites comme sport?
Non, comme maintenant, au-delà de la cinquantaine, on essaie de se maintenir, hein, avec la marche et un peu de vélo, voilà.
Radio Capi, grand témoin.
grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Hubert Titika Inkalaba. Il est homme politique congolais. Parlons de votre expérience politique ou parcours politique, Hubert Titika. Vous revenez au pays à l'entrée, à l'arrivée de l'APDL.
Exactement.
Est-ce qu'on vous a contacté par l'AFDEL ou ce sont des amis qui vous ont parlé de cette révolution de Laurent-Désiré Kabila que vous avez accepté de revenir au pays?
Vous savez, quand j'ai cité les amis avec qui on a été en Europe, j'ai cité un nom que vous devez certainement connaître, Didier Moumengi.
Didier Moumengi, oui.
Donc vous voyez quelle est l'histoire qu'il peut y avoir, les liens qu'il peut y avoir entre Didier Moumengi et Moïse Kabila. Donc c'est par l'ami que nous sommes venus. Donc nous étions déjà contactés dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'on savait déjà quand ça commençait là, on était déjà au courant, on suivait tout, on suivait l'évolution, donc il fallait attendre et arriver à Kinshasa, et une fois que les autres sont arrivés, on venait petit à petit, donc par groupe, et c'est comme
et
ça.
Par conviction que vous avez accepté de travailler avec le régime Abdel, ou juste parce que il fallait faire partir le régime de Mobutu?
Non, en tout cas, je dois avouer que c'est par conviction, parce que vous savez, quand on a vécu, on a vécu à l'Europe, on était bien informé, on suivait beaucoup mieux la situation du pays que beaucoup d'entre nous qui sont restés ici. Mais le problème, c'est qu'on voulait qu'il y ait un changement. Alors la présence des Moïse, c'était vraiment l'occasion rêvée pour que les choses changent. Quand on parle d'une révolution, évidemment, on a parlé d'une révolution, ça on pourrait aussi en discuter, parce que c'est tout à fait autre chose. Mais bon, une révolution, vous savez, tout simplement, c'est l'institution d'un ordre nouveau sur un ordre ancien. Donc pour nous, comme pour moi personnellement, comme je voulais que les choses changent, je me dis voilà, le mot qu'il fallait, le mot d'évolution du pouvoir, d'organisation du pouvoir qu'il fallait, c'est celui-là, c'est-à-dire, c'est révolutionner les choses, mener une révolution, donc instituer un ordre nouveau sur un ordre ancien. Il fallait oublier un peu tout ce qui s'était passé. C'est pas pourtant dire que tout ce qui était passé était mauvais, non, il faut quand même avoir un peu d'équité, un peu de bon sens.
Alors vous arrivez, vous travaillez comme conseiller du ministre de la Culture et des Arts, c'était Madame Juliana Lumumba à cette époque-là, pendant 2 ans,
oui.
Avant d'être député de la CLPT.
De la CLPT, nommé.
Nommé député.
Exactement.
À ce moment-là, il n'y avait pas encore élection.
Il n'y avait pas encore élection. De toute façon, il y a toujours un problème dans ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'en droit constitutionnel, on reconnaît deux mots de désignation des députés. Il y a la cooptation et l'élection. Non. À cette époque-là, c'était un parlement uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti là-dedans, en fait. Il n'y avait pas de parti, c'était des gens qu'on a pris pour aller... C'était une constituante, hein, c'était l'Assemblée constituante et législative, parlement de transition.
Donc, mais le choix, c'est faisait comment?
Bon, le choix, en fait, je dois quand même avouer que le président Moïse à l'époque avait des gens avec qui il travaillait. Théophile Mbemba, Mova, Gaëtan Kakoudji, Mengi, tout ça. Je pense que c'est passé par ces gens-là qu'il fallait contacter les autres et sélectionner. Et bizarrement, je dois quand même dire quelque chose de très bien. Parce que généralement, quand les gens pensent que quand on choisit comme ça, non, c'est pas un bon parlement. Au contraire, moi j'ai remarqué que c'était l'un des parlements les plus meilleurs. Parce que ce parlement, on n'en a jamais fait le bilan.
C'était un parlement monocolore. Donc...
Bon, non. Ah, oui, monocolore, ça je veux bien. Je veux bien. Mais en termes de travail, en termes d'efficacité, vous savez, parce que ceux qui étaient chargés de désigner, de choisir des gens, avaient la lourde responsabilité de leur comportement après. C'est-à-dire que si la personne que vous avez choisie ne travaille pas bien, ça tombait sur vous. Alors, de ces faits, on a choisi des gens vraiment qui devaient aller... Comme par hasard, sur 300 députés, on a retrouvé un parlement où on avait au moins une trentaine de juristes. Vous savez que le parlement, c'est une institution politique, certes, mais c'est une institution qui fait des textes de loi. Et les textes de loi ont toujours tout texte, quelle que soit la matière que vous traitez, a un caractère juridique, une forme juridique. Donc, il fallait vraiment des juristes. Et là, il y avait au moins une trentaine, et pas n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'on a pris tous ces anciens procureurs, des magistrats, des gros. Alors là-dedans, on a trouvé des chefs d'entreprise, des gens qui ont dirigé des entreprises, des grandes entreprises de l'époque, il y a eu des médecins, il y a eu des politologues comme nous, et vous allez remarquer, je vais vous le dire, que beaucoup des lois qu'on utilise aujourd'hui sont venues de là. Nous avions fait le code minier, le code forestier, le code des investissements, c'est nous qui avions créé les ANAPI, les cadastres miniers, tout ça, c'est venu de ces parlements-là. On en a beaucoup, on n'en a jamais parlé, mais c'était un parlement très efficace en termes de rendement, un parlement qui a apporté beaucoup de choses, beaucoup à la nation, et c'était une bonne expérience. Parce que moi, je me disais, finalement, la compétence y était. Mais bon, le fait d'être monocolore, c'est ce qui a peut-être donné une autre image. Mais en termes de compétences, après, il fallait savoir qu'est-ce qu'on voulait. Est-ce qu'on avait besoin d'un bon rendement ou bien d'une bonne assemblage, voilà.
Donc, il y avait la compétence dans ce parlement.
Oui, alors, certes, ça, je suis prêt à en débattre avec qui veut. Et nous sommes prêts à les démontrer, là.
Différent du parlement qu'on a aujourd'hui, c'est une petite comparaison. Hein.
Bon, évidemment, quand les gens sont choisis, évidemment, il faut respecter les choix. Il faut respecter les choix des gens. Mais je dois vraiment dire que à ce parlement-là, celui dont je parle, de la CLPT, c'était très facile de trouver un grand nombre de spécialités pour une question donnée. En tout cas, ça, c'était plus facile là-bas qu'ici. Voilà, il faut qu'on se divise.
Voilà, entre 2003 et 2007... Qu'est-ce que vous avez fait?
Ah oui, bon, entre. Déjà, je dois dire que je suis allé à Sun City.
Vous avez pris part aux accords de
Sun
City?
Oui, bon, j'ai vraiment pris part à la dernière, presque aux deux ou trois dernières séances pour le compte de l'Assemblée de la CLPT. J'étais à Sun City, c'est là où j'ai rencontré mon futur président de parti,
Olivier
Kamitatou. J'ai eu à parler avec les autres, le Robert Wael et tout ça. Et j'ai rencontré beaucoup d'amis, évidemment, avec qui on était à Paris, qui se retrouvaient dans les MLC à l'époque, dans la rébellion, beaucoup de gens. Mais après, il a fallu, on est passé dans le 1+4 là. Le Parlement de transition. Comme malheureusement, je n'ai pas été retenu parce qu'il n'y avait que 92 places pour le camp présidentiel, les camps Kabila à l'époque. Donc, j'avais pas eu la chance d'être. Et puis, j'ai fait un petit retour en Europe juste pour essayer de vouloir chercher à écrire, à ceci, mais j'avais pas terminé ce que j'écrivais. J'ai toujours.
Vous prépariez un ouvrage?
Oui, mais j'ai voulu un peu faire part de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu pendant. Surtout, j'ai voulu beaucoup, sincèrement parler de ces parlements. Parce que je trouvais injuste qu'un parlement comme ça, on puisse en parler, qu'on puisse avoir une image totalement ternie et totalement désuète de ces parlements. Alors, j'ai commencé à écrire, mais quelques temps après, avant de finir, j'ai eu un petit coup, j'avais perdu ma mère en Afrique du Sud, il fallait ceci, tout ça. Ça m'a bousculé un peu. Et puis je me suis dit, non, il fallait quand même rentrer au pays.
Mais ça serait intéressant hein, de continuer à écrire hein, sur le Parlement, sur la CLPT.
Si, si, si. Maintenant, avec toute mon expérience, donc j'aurais à écrire sur la CLPT, j'aurais à écrire sur le gouvernement provincial dans lequel je participais. Et j'aurais à écrire aussi, s'il est faux, l'expérience que nous vivons actuellement. Mm-hmm. Voilà.
En 2007, vous êtes élu député provincial, hein?
Non, je n'ai pas été élu. Je suis rentré en 2006, et je me suis fait candidat, j'ai échoué, j'ai perdu, tout simplement parce que, bon, vous savez, j'avais pas vraiment des liens très, très prononcés avec mon territoire d'origine.
Mais vous vous êtes engagé quand même.
Oui,
je me suis
engagé.
Je suis un fils de là.
Oui, bon, vous savez, chez nous, les gens sont... Les villageois sont très clairs.
C'est l'erreur que beaucoup des politiques commettent quand même.
Oui, mais je pense qu'il faut que les gens le sachent. Moi, il me dit, ces gens-là sont contrairement à ce que nous pensons. Les gens au village vous disent la vérité hein, et ils sont directs. Hein. Ils m'ont dit clairement, écoutez, nous connaissons papa, vous on vous connaît pas, on va vous observer. Donc j'ai compris que je passerai pas, mais bon, il fallait aller jusqu'au bout. Je suis pas passé, mais bon, et puis on m'a quand même récupéré par les hommes politiques de la place pour que je puisse aller aider la province au niveau de Bantundu, voilà, dans le gouvernement provincial.
Vous avez récupéré, ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire qu'après avoir...
Plutôt ministre provincial, je voulais parler de ministre provincial,
oui,
ministre pas de député provincial.
Voilà, donc, j'étais candidat à député national,
ça n'a pas marché,
et puis après, on m'a pris quand même comme ministre provincial, voilà.
Ministre provincial de quoi?
Ouh, là, j'étais, avant tout, j'ai commencé par être ministre provincial en charge des mines. Écoutez, bon, vous savez, le gouvernement provincial ne peut pas avoir plus de 10 ministres. Mm-hmm. Alors, vu les secteurs d'activité, le nombre de ces secteurs, bon, on a essayé de mettre en place beaucoup de ministères. J'étais à la fois ministre de Mines, et puis de la culture, sport, et après, je suis passé ministre des ITPR, donc je me suis chargé des ITPR, et j'ai toujours été porte-parole du gouvernement. C'était moi le porte-parole du gouvernement provincial du Grand Ouest.
Voilà, vous êtes porte-parole de l'ARC aujourd'hui, mais avant l'ARC, qu'est-ce que vous avez adhéré à un autre parti politique, hein?
Oui, quand nous sommes rentrés, je vous dis que je suis parti, évidemment, quand on était à Lubumbashi, à la CLPT, là, il n'y avait pas d'histoire des partis, nous étions des kabylistes, des hommes de musée, et puis voilà. Et après, en 2006, quand je suis parti comme candidat député, national, je suis parti pour le compte de la Ligue du Peuple, le parti de Didier Moumengi qui avait créé à l'époque. Alors, après, quand ça n'a pas marché, bon, le parti aussi n'a pas bien marché, c'est voilà comment je vais me retrouver dans l'ANC, voilà, depuis 2007. J'étais ministre pour le compte de l'ANC.
2012, député, élu député national. Oui. Kassongolunda.
Enfin,
on vous a observé.
On a observé, on a compris que non, il n'était pas si mal.
Voilà. mais Hubert Tétika, on vous a accusé quand même lors des élections de 2011 d'avoir bénéficié de plusieurs bulletins falsifiés pour votre élection.
Ah, vous savez, c'est... qui n'a pas été accusé? Qui n'a pas été accusé, vous savez.
Non, il y a des gens qui n'ont pas été accusés.
Je veux bien, mais il y a que peut-être 10 ou 20% des gens qui n'ont pas été accusés. Quand vous avez 18 000, madame, quand vous avez 18 865 candidats pour 500 sièges, vous rendez compte, vous savez que, il faut vous dire qu'il y a 18 365 personnes qui doivent nécessairement perdre et qui ne vont pas croiser les bras. Vous savez, chez nous, le mal, c'est que, bon, on n'aime pas accepter la défaite. On n'aime pas accepter l'erreur ou le tort. Quand on a fait une bêtise, on dit non, c'est toujours pour c'est la faute, c'est toujours aux autres. Les autres. Donc c'est ce qui a fait que, bon. Parce que moi, je me dis, vous imaginez, vous avez un territoire comme Kassongolunda. Kassongolunda, c'est 26 080 km². Il y a un pays qui est, je ne citerai pas, qui est notre voisin, qui fait 26 050 km². Donc le territoire de Kassongolunda, qui est deuxième en termes de superficie dans le pays, est plus grand qu'un État, et presque un État africain. Alors, vous savez, parcourir ça, nous étions 154 candidats dans le Kassongolunda, mais nous avions remarqué qu'il n'y avait que 3 candidats sur les 154 qui ont eu la chance de faire le tour de toute la province, de tout le territoire. J'étais parmi les 3. Vous allez remarquer, et les 3 ont été élus. Vous allez remarquer que dans les 4-là, il y a 3 qui ont déjà travaillé dans la territoriale, qui ont travaillé en province. J'ai été quand même ministre pendant 5 ans.
Mais ça veut rien dire. On peut être ministre et puis ne pas être élu.
Non, j'ai eu le temps. Ah, oui, ça dépend si on n'est pas, compétent ou si on ne fait pas bien son boulot. Ça. Mais quand vous êtes là, pendant 5 ans, vous êtes avec ces gens-là, vous les recevez à Bandundouville, vous allez les voir dans leur territoire, vous les aidez, vous participez à l'évolution du territoire, les gens ne peuvent qu'être reconnaissants. Et on va remarquer que les 3 qui ont travaillé en province ont été aussi élus. Donc, sont parmi les 4 élus. Donc, je pense
c'est une histoire montée, c'est un mensonge qu'on a raconté.
Madame, j'ai laissé la justice avait tranché, voilà. J'ai pas de commentaire à faire.
Alors, on va souffler un peu, Hubert Tétika. Comment vous passez vos moments de détente?
Bon, j'aime écouter la musique, mais maintenant qu'il n'y a plus de bonne musique dans le pays, c'est ça aussi le problème. Parce que vous savez, cette génération-là...
C'est relatif, hein?
Non,
il y a des gens qui vont vous dire qu'il y a toujours de la bonne musique.
Non, il y a une différence entre le bruit et la musique, hein, vous savez, j'étais au ministère de la Culture, j'essayais de travailler dans un dossier qu'on nous avait donné à l'époque par Mouzé pour essayer de travailler sur l'industrie de la musique. J'ai vraiment pénétré ce secteur-là, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus. Ça, il faut le dire, des musiciens, de la trempe de Taboulé, de la trempe de Calais. Aujourd'hui, la musique n'est plus ce qu'elle était avant. Même ceux qui pouvaient prendre les relais ont sombré dans l'histoire de... Quoi, dans la facilité, c'est-à-dire bon, chanter les gens, essayer de dire n'importe quoi. Faire plus de bruit, croyant faire danser, alors qu'aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, vous allez dans une boîte à Kinshasa ou quoi, mais la musique que vous entendez plus, c'est la musique ivoirienne, la musique... Et d'ailleurs, alors que c'était l'inverse. C'était impossible ici d'écouter ce genre de musique. Mais quand vous allez à Abidjan, à Cotonou, à Yaoundé, tout ça, vous n'aviez que la musique congolaise. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait un débat sur ça. La musique a totalement bifurqué. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On chante des bêtises, on chante. Il n'y a plus de morale en musique. C'est pas que je sois trop critique, mais il faut quand même qu'il y ait un débat un jour de ces côtés-là.
Quelle chanson vous ferait plaisir en ce moment?
En ce moment. Bien, si j'ai demandé une chanson des Mainers, ça va peut-être.
Demandez toujours. Vous avez peur qu'on dise qu'il a demandé une chanson des Emiliens parce qu'il est de sa province.
Bon, voilà. D'accord. Alors, donc je ferai pas là. Alors, je prendrai Kofi.
Non, allez-y.
Qu'on me donne SOS avec Kofi, ça ira.
Voilà, on va demander à Dieu Donné Nyangasa qui est de l'autre côté de la ville. Éviterait de nous proposer la chanson SOS de Kofi pour le plaisir de Hubert Tetika que nous recevons dans cette émission. Il est en politique congolais, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent à travers la RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Oh, de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Bertetika Inkalaba, un politique congolais, c'est lui que nous recevons aujourd'hui dans Grand Témoin. Monsieur Titika, vous êtes aujourd'hui porte-parole de l'ARC, ARC, un parti politique exclu de la majorité présidentielle qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Comment d'abord se porte le parti aujourd'hui?
Non, le parti se porte bien, donc il n'y a pas de
le
problème.
Le parti se porte bien, vous êtes sûr?
Si. Bon, ce qui se passe là, ce n'est que bon. C'est les choses qui arrivent, hein, politique, mais bon, il faut savoir laisser couler l'eau sous le pont et puis laisser le temps au temps, quoi, voilà.
Malgré les dissidences qu'il y a, malgré le désaveu du président de l'ARC par une frange des militants de l'ARC, vous me dites que le parti se porte bien.
Aujourd'hui,
on a l'impression qu'on a deux ailes, elle majorité et elle opposition.
Donc, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il faut laisser couler l'eau sous le pont, c'est-à-dire qu'il faut donner du temps au temps, et les choses vont se régler, je suis sûr. Bon, mais que ce soit les amis que vous qualifiez des dissidents ou les autres qui sont restés, je pense que personne n'est à condamner en réalité. En réalité, vu comment les choses se sont passées. Donc, les choses se sont passées de telle manière que c'était d'abord trop rapide et que ça a pris des coups, beaucoup des députés, beaucoup de membres de ces partis, parce que, bon, une bonne partie des choses, les choses se sont passées vraiment au niveau des responsables de partis.
Vous avez pris des décisions sans consulter la base, la dictature.
Oui et non. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai, il faut que, pour prendre des décisions aussi importantes, il faut les prendre de manière collégiale. Mais moi j'observe la pratique. Là, je ne veux pas parler comme porte-parole des LAC, je parle comme homme politique ordinaire. Je me mets un peu à l'écart et j'observe. Qu'est-ce que j'observe dans tous ces partis politiques? C'est-à-dire que beaucoup de choses, des décisions sont prises, vraiment en amont, par le responsable du parti, sans que tout le monde y participe. C'est quelque chose qu'il faut changer. Ces événements ont fait que demain, les choses vont changer et je pense qu'il faut que les choses changent. Mais les problèmes, quand un président du parti prend une décision qui arrange quelqu'un, donc c'est pas une mauvaise décision. Mais quand ça n'arrange pas, c'est en ce moment-là que ça devient une mauvaise décision. Donc, dans tous les partis, hein, c'est-à-dire que c'est ce que j'observe. C'est pour ça que j'ai dit, à la fois, c'était pas bien, c'est qu'il fallait pas le faire. À la fois, dans la pratique, ce sont les choses qui ont toujours été faites, mais qu'il fallait nécessairement changer. Donc, voilà là où on se trouve. C'est-à-dire que condamner, je ne condamnerai pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que, bon, ça va, tout simplement. Parce que, les amis qui sont partis, vous imaginez un matin, on vous dit, écoutez, votre président a décidé ça. Désormais, c'est ceci. Ah, mais les gens se posent des questions. On dit, mais comment? Doit-on suivre ou ne pas suivre? Et puis on vous appelle, on dit, écoutez, maintenant vous avez les choix. C'est rouge ou bleu, c'est tout. C'est rouge ou vert, et puis voilà, vous choisissez. Quelqu'un peut réfléchir autrement. Il y a ceux qui sont partis. Vous pouvez se dire, écoutez, nous n'avons pas les choix, on n'a pas participé à ces choix-là, donc nous ne pouvons pas cautionner ça.
Et donc, vous comprenez un peu la position de ceux qui sont partis.
Je le comprends très parfaitement. Maintenant, je prends aussi la position des autres, ceux qui sont restés. Des gens comme nous, par exemple. Je réfléchis, je dis, écoutez, si je dois désavouer le président du parti, c'est-à-dire je désavoue le parti. Or, ici, dans ce pays, les mandats des députés sont liés au parti. C'est-à-dire que si je désavoue, demain, on peut me demander de déposer le mandat. Donc, je ne suis plus député. J'ai réfléchi. Donc, voilà, les gens ont réfléchi comme ça. C'est-à-dire que les gens ont réfléchi comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dit que, non, en réalité, personne n'avait tort, mais chacun s'est mis sous un angle, et il a réfléchi sous un angle, et il a pris la décision qu'il a prise. Donc, mais il faudra. Mais ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre, demain, de ne plus vivre la même chose. Les présidents de parti doivent savoir comment composer avec les autres. Mais nous savons que l'État finira par prendre une décision. Donc, Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est quand même quelqu'un d'être très valable. Donc je pense qu'on trouvera une solution. Il faut faire en sorte que personne ne soit lésé, au fait. Mais ça crée une situation inédite et qui n'est pas bien pour la démocratie.
Voilà. Alors, Hubert Tikisa, en tant qu'homme politique, vous ne parlez pas là au nom de l'ARC. Hein. Je voudrais avoir votre point de vue par rapport à la tenue du dialogue pour ou contre.
En tout cas, si là, comme vous l'avez bien dit, je ne parle pas sous cette étiquette-là. Donc je me dis, je suis un homme politique, je me mets un peu à l'écart. J'observe que le pays a des problèmes. Il y a des problèmes. Il ne faut pas l'ignorer. C'est clair qu'il y a un problème. Alors maintenant, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et la solution, on la trouve comment? Évidemment, la solution, on la trouve en parlant, en se parlant. Moi, je pense que le dialogue, c'est les chemins par lesquels il faut passer. Mais maintenant, beaucoup de gens, chacun donne ses arguments. Il y a des gens qui vous disent, non, nous voulons le dialogue, mais que ça soit sous le cadre d'Addis Abeba. Depuis, on a fait Addis Abeba jusqu'à aujourd'hui, même la communauté internationale n'est pas venue stimuler, dire, pousser, pour dire, non, faites un dialogue par rapport à Addis Abeba. Ce n'est pas encore fait. Donc, aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui convoque le dialogue, qui prend l'initiative. Moi, je me dis, certains disent...
Est-ce qu'il faut attendre que la communauté internationale vienne vous stimuler pour vous dire, écoutez, il faut organiser le dialogue?
Et puis, prenons les accords d'Addis Abeba. Si vous lisez, je me rappelle, qu'est-ce qui a été écrit? On dit, promouvoir le dialogue. Nous parlons français. Promouvoir le dialogue et tenir un dialogue, c'est deux choses. Promouvoir, essayer dans la mesure du possible, c'est ce que ça veut dire. Hein, essayer d'avoir du dialogue. Tenir un dialogue, c'est-à-dire c'est une injonction, on vous dit vous devez tenir. Mais dans ces documents-là d'Addis Abeba, on parle de promouvoir. C'est pour ça, moi, je n'y fais pas trop attention. Bah, je me dis, écoutez, ce sont des langages diplomatiques, c'est juste pour vous dire qu'on les a poussés à aller parler. En réalité, c'était ça, et ça ne sert à rien de s'y accrocher. Mais non, moi, je me dis, qui peut alors tenir un dialogue? Certains disent, non, si c'est le chef de l'État, Kabila, qui convoque, nous, on ne part pas. Moi, je me dis, là, je parle vraiment à titre personnel. Je me dis, mais non, si nous reconnaissons tous en Kabila la qualité de chef d'État, en vertu de quoi nous allons lui dénier le droit d'user de ses prérogatives, qui est celle de pouvoir réunir les gens pour traiter d'une question internationale. Aujourd'hui, nous parlons des élections. Apparemment, qu'on le veuille ou non, apparemment... Je ne vois pas comment on pourrait échapper à un glissement même d'un jour. Je ne vois pas. Parce qu'il fallait 13 mois pour la CENI.
Donc, ce n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais, c'est-à-dire...
Par rapport à ce qu'on nous a dit. On nous a dit que dépasser le 17 octobre, moi, c'est quelqu'un, on nous a donné cette date-là, que si on voulait organiser les élections présidentielles à cette date-là, donc il fallait qu'à partir du 17 octobre, les préparatifs commencent. Bah, apparemment, ce n'est pas fait. Donc, aujourd'hui... Je ne vois pas, moi. Moi, j'ai dit, il faut être objectif. Et nous devons nous dire les choses en face. Donc, apparemment, c'est un problème qui profile à l'horizon. Mais maintenant, si on vous dit, venez en débattre. Non, nous ne venons pas si c'est le président qui organise. Moi, je dis non. Je dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comme c'est dans ses prérogatives, allons-y. Allez lui dire ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. Au moins, le peuple aura su que vous aviez osé et vous êtes allé parler. Refuser d'aller, c'est comme si vous ne voulez pas aller discuter des problèmes du pays dans un forum où on vous invite. Parce qu'est-ce qu'il y aura un autre forum? Je n'en sais rien. Donc c'est ça le problème. Bon, chacun donne des raisons. Mais bon, d'autres disent, écoutez, c'est quelque chose qui est déjà boutiqué entre le PPRD et l'UDPS. Peu importe si c'est ça. Quand on va au dialogue, on va les constater. Si on le constate, on les dénonce de là-bas. On ne saura pas les dénoncer de dehors. Et si par hasard, là-dedans, ça change, c'est pas ça. On fait quoi? Donc voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Donc pour vous, il faut aller au dialogue.
Pour moi, à titre individuel, hein, je fais partie d'un groupe. Il y a toujours la loi de la majorité. On peut se soumettre à cette loi et tout ça. Ça, c'est pas un problème. Mais en tant qu'homme politique qui regarde de loin, je me dis non. Parce qu'il y en a même qui parlent d'extra-constitutionnalité. On dit non, si on va au dialogue, on sort de la Constitution. Et puis, qu'est-ce fait-on des institutions? Moi, je dis non. On a fait les concertations. Les concertations, elles sont prévues dans aucun texte. C'était pas constitutionnel. Bon, on les a fait. Et pendant qu'il y avait.
Mais qu'est-ce que ça donnait, ces concertations? Attendez, c'est peut-être ça qui.
Je n'entre pas dans les résultats, mais pendant qu'il y avait les concertations, je prends le principe. Pendant qu'il y avait concertation, les institutions n'étaient pas dissoutes. C'est que je sache, les hommes politiques ne perdent rien à aller participer au dialogue. Je ne fais pas l'apologie du dialogue. Pousser les gens à ne pas y aller, automatiquement. Parce que bon, certains disent, non, si on va là-bas, c'est qu'on va essayer de cautionner
le glissement,
on va cautionner, quoi qu'on a dit, la révision constitutionnelle, on va cautionner. Écoutez, moi je veux bien. Moi je n'aime pas, il y a des signaux, oui, certes, mais toujours avoir des préjugés, c'est pas bon non plus. Je pense que en politique, on discute. Et c'est au bout d'une discussion qu'on prend position. Vous ne pouvez pas refuser la discussion et prendre position directement. Donc, voilà.
Que pensez-vous, M. Titika, de ceux qui proposent une transition de 2 ans avant l'organisation des élections?
Bon, je ne sais pas sur quelle base. Voilà pourquoi moi j'ai dit, mais tout ce qu'on peut imaginer ne peut se décider que quand les gens se rencontrent et les gens se parlent. Parce que ceux qui pensent ça, ils viendront dans ces forums-là, donner leurs arguments. Ceux qui pensent le contraire, qui disent non, pourquoi on va faire ça alors qu'il est possible de faire les élections en novembre 2016, donneront leur position. Donc, moi je pense que, en dehors d'un cadre de concertation, d'un cadre de discussion, je ne vois pas comment on peut donner des arguments. Dire que non, ça va faire ceci, sinon c'est là. Donc, tout ça, au fait, on est en train de parler, mais en réalité, où est-ce qu'on peut aller débattre de tout ça? C'est quelque part. Même si on n'appelait pas ça dialogue, admettons, même si c'est la communauté internationale qui appelle, pour moi, tout cadre qui permettra à ce que les gens, les hommes politiques, aillent discuter des histoires de la nation, je pense qu'il faut y aller. J'ai dit bien tout, que ce soit organisé par le président Kabila ou que ce soit organisé par la communauté internationale, il faut y aller. Donc, ne pas y aller, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous voulez quelque chose, mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Non, soyons quand même un peu.
Alors là, c'est votre position à vous en tant que homme politique congolais.
Mais... Et je m'assume.
D'accord, mais quelle est la position de votre parti?
Non, la position du parti, évidemment, le parti est dans un groupe qu'on appelle G7, et la position des G7 est claire. Au départ, individuel dans certains partis, ils étaient d'accord, mais après, collectivement, ils se sont dit qu'il faut, ça valait pas la peine d'y aller. Ça, c'est la position du G7 en général. Voilà.
Voilà, Monsieur Liberté, c'est à la réalisation, me signale. Qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Nous devons
conclure, le temps passe vite.
Déjà
très vite. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
Je vous remercie, Radio Okapi, je me demande si cette radio n'était pas là, que deviendrons-nous alors? Parce que bon, c'est une radio qui permet d'atteindre au moins tout le monde. Chaque fois que je passe sur Radio Okapi le lendemain, j'ai des coups de fil qui viennent même de coins qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc c'est un bon moyen. Vraiment félicitations à la radio parce que ça permet à ce que on puisse atteindre le Congolais, qu'il soit associé au débat. Aux auditeurs, je leur dis, quant à moi, que bon, j'ai donné une position qui est la mienne, qui est personnelle, mais évidemment, j'essaie aussi de parler de la position du groupe auquel nous appartenons. Mais l'intérêt aujourd'hui, même la population, doit essayer de pousser les hommes politiques à prendre les responsabilités, à dire aux hommes politiques que vous devez vous voir, vous devez discuter, quel que soit le cadre.
Merci beaucoup, Hubert Titika. C'était un plaisir de vous recevoir.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que je suis Hubert Titika Nkanaba, en politique congolais. Merci beaucoup à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son. Au micro, Kenin Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.